Vous écoutez On lit pour vous.
Deux programmes de soins de santé pour Afro-Néo-Écossais en grande demande. Un texte de Radio-Canada, d'après le reportage d'Alex Guillet de CBC, paru le 14 juin 2026 sur le site ICI Nouvelle-Écosse. Deux programmes de soins de santé pour les membres des communautés de descendance africaine en Nouvelle-Écosse sont en demande à un point tel que les responsables proposent de les étendre à l'ensemble de la province. Les programmes Nova Scotia Brotherhood et Nova Scotia Sisterhood sont chaponnés par la Régie de santé de la Nouvelle-Écosse. Ils visent à abaisser les barrières qui bloquent l'accès aux soins de santé et offrent aux Afro-Néo-Écossais une gamme de services, comme la gestion des maladies chroniques, l'administration de tests PAP, les traitements contre les dépendances et de l'aide en santé mentale. En forte hausse. Des responsables de ces programmes ont expliqué la hausse importante de l'achalandage lors de leur passage mardi devant le comité permanent de l'Assemblée législative sur la santé à Halifax. Nova Scotia Brotherhood, lancé vers la fin de 2015, a aidé 683 hommes à obtenir des soins de santé primaires en 2025 et 2026, comparativement à 196 hommes en 2022-2023. En particulier, la demande pour des soins en santé mentale a augmenté de façon spectaculaire. En 2022-2023, seulement 64 hommes étaient venus demander de tels services. L'année dernière, ils ont été 855. Nova Scotia Sisterhood est plus récent. Il a été créé en 2023, mais la participation a bondi très rapidement. Le programme a aidé 42 femmes la première année. En 2025-2026, il y a eu 1272 prises de rendez-vous pour des soins primaires. Pour les soins de santé mentale uniquement, on est passé de 32 femmes ayant requis de tels services la première année à 445 femmes l'an passé. La communauté est satisfaite, en général, de l'accès aux soins que nous offrons, a déclaré le docteur Ron Milne, le responsable de Brotherhood. Il estime que c'est particulièrement apprécié parce que de nombreux patients n'ont pas de médecin de famille. Pour eux, le programme est devenu une porte d'entrée vers les soins. Le souhait du docteur Milne est de voir Brotherhood étendu à toute la Nouvelle-Écosse. Sa proposition initiale est d'établir deux sites permanents pour le programme itinérant, l'un dans le quartier North End d'Halifax, l'autre à proximité des communautés noires historiques d'East Preston et de Cherry Brook. Le docteur Milne est le seul médecin à servir Brotherhood, tandis que Sisterhood compte deux médecins et une infirmière praticienne. Le personnel de ces programmes est composé de professionnels de la santé afro-néo-écossais. Rod Francis, directeur général de l'équité et de l'engagement au ministère provincial de la Santé, a confirmé qu'une proposition d'élargissement a été reçue par le gouvernement plus tôt cette année. C'était deux programmes de soins de santé pour Afro-Néo-Écossais en grande demande. Un texte de Radio-Canada, d'après le reportage d'Alex Guillet de CBC, paru le 14 juin 2026 sur le site ICI Nouvelle-Écosse.
La culture est aussi un baume. Une chronique de José Boileau, publiée dans la presse du 19 juin 2026. Depuis des années, je suis abonné à l'Orchestre métropolitain. J'aimerais dire que c'est mon amour et ma connaissance de la musique classique qui expliquent cette fidélité, mais j'avoue me sentir toujours aussi novice qu'à mon premier concert. Ce qui m'attire relève d'un tout autre sentiment, l'apaisement. L'art fait souvent cet effet. Mais dimanche dernier, le concert de fin de saison de l'Orchestre métropolitain a atteint pour moi une autre dimension, celle d'un baume dans ce monde tourmenté. L'orchestre, sous la direction de son chef Yannick Nézet-Séguin, a présenté 4 œuvres sur le thème « Chant d'espoir », avec cœur à l'appui. Je laisse l'appréciation musicale aux critiques compétents, mais au chapitre de l'humanisme, c'était « Mission accomplie ». À son habitude, le chef Yannick Nézet-Séguin a résumé ce qui allait être entendu en donnant le contexte de la création des pièces. Il a souligné les « Montgomery Variations » de Margaret Bonds, guillemets, « grande méconnue de la musique noire américaine », fin des guillemets, comme le précise le programme. L'œuvre est inspirée des batailles pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis dont l'attentat à la bombe dans une église de Birmingham en 1963, qui tua plusieurs enfants. Citation « One Sunday in the South », fin de citation, comme le dit sobrement le titre de la cinquième variation. Les Séguin a aussi souligné à quel point il est troublant de constater que les douleurs d'hier ont leur pendant aujourd'hui. Le chef n'avait pas besoin de dresser de liste, les références étaient dans tous les esprits. Ce dimanche-là, on était deux jours après la nouvelle du démantèlement d'une équipe de policiers à Montréal-Nord, en attente d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, en plein constat que l'agression de la Russie contre l'Ukraine dépasse maintenant la durée de la Première Guerre mondiale, et Israël bombardait encore le Liban et Gaza. Ce que le chef de l'orchestre métropolitain nous faisait comprendre, c'est qu'en étant dans la salle de concert, nous n'étions pas en dehors du chaos, mais en communication avec celui-ci. De tout temps, des compositrices et des compositeurs ont su intégrer le fracas politique et social du monde à leurs œuvres, tout en concluant celles-ci sur des notes d'espoir. Comme nous étions ainsi prévenus, la musique prenait une autre consistance, d'autant que le concert se terminait avec les Chichester Psalms de Leonard Bernstein, où des voix bien humaines nous envoûtent particulièrement lorsque s'élève celle d'un tout jeune garçon, Laurier d'Amour Poirier, pour ce spectacle. L'appréciation de ces précieux moments n'était pas qu'esthétique. J'y ai vu la confirmation que les arts que l'on dit classiques ne sont éthérés qu'en apparence. Dès lors qu'on les ramène sur terre, comme le fait Nézet Séguin depuis maintenant des années, on peut y puiser de la force. Je pense à un couple d'amis britanniques qui a découvert notre chef en début d'année en écoutant le concert du Nouvel An de la Philharmonie de Vienne, grande tradition télédiffusée en direct dans 90 pays, mais pas au Canada. Misère! Diriger ce spectacle annuel est un honneur qui était donc revenu à Nézet Séguin. À son habitude, l'homme a respectueusement bousculé les habitudes en mettant des compositrices au programme et en osant se mêler au public pour diriger la marche de Radetzky de Strasberg. De plus, dans une allocution, parenthèse, où il a glissé du français, fin de la parenthèse, il a invité chacun à accepter nos différences. Nos amis étaient éblouis, et je crois même un peu jaloux. Il n'y en a pas tant, des chefs aussi talentueux et chaleureux et conscientisés. Et nul besoin d'être tonitruant pour faire entendre de puissants messages. De manière cette fois totalement inattendue, j'ai eu la même impression en visitant l'exposition consacrée à la galerie Burt Vail au Musée des Beaux-Arts de Montréal l'été dernier. Il y a 100 ans, cette femme d'origine juive a mis en valeur de nombreux peintres qui en étaient à leur début et qui deviendront des géants. Matisse, Chagall, Modigliani, Picasso. Et elle donnera un appui indéfectible aux femmes artistes alors reléguées aux marges. Vail avait du flair et n'a jamais cherché à s'enrichir sur le dos des artistes comme l'ont fait d'autres marchands. Elle est donc restée pauvre et ne fut guère considérée par ses concurrents masculins, ce dont elle se moquait avec mordant. Elle a carrément sombré dans l'oubli après sa mort en 1951. Des décennies plus tard, c'est pourtant elle qui triomphe. Ses idées progressistes, son ouverture d'esprit, son rejet des préjugés auront profité à des centaines d'artistes et ainsi marqué l'art moderne. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, mises côte à côte, les œuvres que Vail a exposées illustraient le désir de changement qui, en dépit des drames du 20e siècle, vont finalement s'avérer. Il y a plus de place aujourd'hui pour l'audace, l'ouverture d'esprit, l'égalité. C'était à la fois beau et réconfortant de constater. J'y repense souvent. Avec l'été qui arrive et les multiples festivals qui le ponctuent, j'espère être saisi d'autres fulgurantes prises de conscience grâce à un air ou à un artiste. Et je me dis que la politique devrait emprunter l'art pour susciter cet espoir dont on a tellement besoin. Fin de cette chronique titrée « La culture est aussi un bon » signée José Boileau, publiée dans la presse du 19 juin 2026.
Le débat sur l'aide médicale à mourir ne s'essouffle pas au Canada. Un texte de Sarah Ritchie, de la presse canadienne, paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir. En 2015, alors que Jocelyn Downey assistait à l'annulation par la Cour suprême du Canada des lois criminalisant l'aide à mourir, elle s'est dit qu'elle ferait mieux de trouver une nouvelle orientation pour le reste de sa carrière. La lutte pour garantir aux Canadiens la possibilité d'obtenir légalement de l'aide pour mettre fin à leurs jours en cas de souffrances intenses semblait avoir pris fin avec la décision unanime rendue dans l'affaire Carter contre Canada. Le plus haut tribunal du pays a donné un an au Parlement pour se conformer à sa décision. Madame Downey, professeure de droit à l'Université Dalhousie, qui avait passé près de 3 décennies à étudier les lois sur l'aide à mourir, a planifié ses prochaines étapes. Mais je ne suis jamais arrivée à la question « Que vais-je faire ensuite ?» à cause de ce qui s'est passé, a-t-elle relaté. Le gouvernement libéral a légalisé l'aide médicale à mourir, AMM, le 17 juin 2016. Il a limité l'admissibilité aux personnes dont le décès était raisonnablement prévisible. Les défenseurs du choix autonome, comme Mme Downey, ont estimé que cette restriction n'était pas conforme à l'intention de la Cour dans l'arrêt Carter. Or, d'autres ont averti que cette limite était essentielle pour protéger les personnes vulnérables. Au cours des 10 dernières années, le débat a évolué pour déterminer qui devrait être admissible à l'aide médicale à mourir et dans quelles circonstances, et qui devrait décider de ces garde-fous. En 2021, à la suite d'une décision de la Cour supérieure du Québec, Ottawa a élargi l'admissibilité pour inclure les personnes souffrant d'une affection médicale grave et irrémédiable, dont le décès n'est pas raisonnablement prévisible, ce que l'on appelle désormais la voie 2 de l'aide médicale à mourir. Elle excluait les personnes atteintes de troubles mentaux, une restriction qui devrait prendre fin en mars prochain, à moins que le gouvernement fédéral ne la reporte une troisième fois. Un débat qui sème la division. Dans l'ensemble, les sondages indiquent que la plupart des Canadiens estiment que les personnes devraient pouvoir choisir l'aide médicale à mourir. Un récent sondage de Nanos Research a révélé que 89% des personnes interrogées appuient l'aide médicale à mourir en cas de maladie en phase terminale et 84% la soutiennent pour les personnes qui souffrent de manière intolérable mais ne sont pas en fin de vie. Mais le débat public n'est pas moins polarisé ni moins émotionnel qu'avant la loi. Au lieu de discuter de la manière dont les choses pourraient être améliorées, c'est tout simplement très, très moche. Et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a déclaré Mme Downey. Cette division était évidente dans les témoignages présentés ce printemps devant une commission parlementaire chargée de déterminer si le Canada serait prêt à étendre l'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale. Certains témoins ont qualifié l'aide médicale à mourir de meurtre en série légalisé, ou ont fait valoir qu'elle équivalait à un programme d'élimination des personnes vulnérables soutenu par l'État. D'autres, comme Mme Downey, ont soutenu que l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de troubles mentaux était une obligation légale. Des contestations en cours. Cette division ressort également des contestations opposées en cours devant les tribunaux canadiens. Le groupe de défense des personnes en situation de handicap, Inclusion Canada, estime que seules les personnes handicapées sont admissibles à la voie 2 de l'aide médicale à mourir. Il mène actuellement une contestation devant un tribunal de l'Ontario, arguant que la loi est discriminatoire. Le groupe cite un rapport publié en 2025 par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies qui appelait le Canada à abroger la voie 2 de l'aide médicale à mourir et à se concentrer sur la mise en place de mesures de soutien aux personnes handicapées. La ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, a déclaré que le gouvernement n'avait pas l'intention de modifier la loi en vigueur. Kerry Frock, professeure de droit à l'Université du Nouveau-Brunswick, spécialisée en droit constitutionnel, souligne qu'il y a de solides arguments pour affirmer que la loi actuelle viole les articles 7 et 15 de la Charte des droits en ce qui concerne les personnes handicapées. L'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tandis que l'article 15 protège contre la discrimination gouvernementale fondée sur divers facteurs, dont le handicap. Madame Frock souligne qu'elle souhaiterait avoir la possibilité de choisir l'aide médicale à mourir pour elle-même, si nécessaire, mais pas au détriment des personnes handicapées. Le groupe de défense de l'AMM, Mourir dans la dignité Canada, fait valoir dans une autre affaire que le fait d'exclure les personnes atteintes d'une maladie mentale comme seule condition sous-jacente violent leurs droits garantis par la Charte. Je pense que nous nous dirigeons vers un choc de titans, a prédit Mme Frock. Vous écoutez, le débat sur l'aide médicale à mourir ne s'essouffle pas au Canada. Un texte de Sarah Ritchie, de la presse canadienne, paru le 16 juin 2026, dans Le Devoir. Une nouvelle pratique à apprendre. Cette polarisation laisse de nombreux cliniciens dans ce que la docteure Madeleine Lee qualifie de « flou du milieu ». Il y a 10 ans, elle et d'autres médecins ont dû trouver comment pratiquer une procédure pour laquelle aucun d'entre eux n'avait été formé à la faculté de médecine. Les cliniciens très courageux qui se sont portés volontaires pour effectuer ce travail ont d'abord dû se rendre dans d'autres pays pour apprendre comment le faire, a relaté Dr. Lee, professeur de psychiatrie à l'Université de Toronto, et évaluatrice et prestataire d'aide médicale à mourir. Elle a contribué à l'élaboration des politiques et des procédures de l'hôpital où elle travaillait en s'appuyant sur son expérience de psychiatre spécialisée en cancérologie. C'était un mélange complexe de médecine, d'éthique et de droit. Et je pense qu'au début, les médecins se concentraient surtout sur la manière d'éviter la prison, a-t-elle expliqué. La docteure Lee estime faire partie de la majorité des professionnels de santé qui soutiennent l'aide médicale à mourir, mais qui s'inquiètent de l'accent mis sur l'autonomie du patient. Je dirais que ce dont le système a besoin, c'est du concept de prise de décision partagée, a-t-elle indiqué. Croyez-le ou non, c'est en fait une proposition radicale dans le cadre de l'aide médicale à mourir au Canada. Dr. Lee a expliqué que cela signifierait que les médecins pourraient dissuader les patients de recourir à l'aide médicale à mourir s'ils estiment que ce n'est pas dans leur intérêt. Madame Frock a suggéré que le Canada s'inspire des Pays-Bas où l'accès à l'aide à mourir peut être refusé aux patients s'ils n'ont pas essayé une option thérapeutique disponible. Au Canada, ce sont les patients qui décident si un traitement disponible leur convient. Les détracteurs du système soulignent la croissance exponentielle du nombre de cas d'aide médicale à mourir au cours de la dernière décennie comme preuve que quelque chose ne va pas. Les dernières données annuelles de Santé Canada montrent que 76 475 personnes ont bénéficié d'une aide à mourir entre 2016 et 2024. En 2024, plus de 95 % des personnes ayant bénéficié de l'aide médicale à mourir souffraient d'une maladie en phase terminale, le plus souvent un cancer. Des obstacles aux discussions constructives. La docteure Alexandra McPherson, psychiatre et prestataire d'aide médicale à mourir à Edmonton, a raconté que son travail consistait à s'assurer que les mesures de protection soient respectées et, surtout, que les patients soient écoutés et entendus. La question centrale est la suivante. Comment permettre aux gens de faire un choix autonome face à des souffrances intolérables et persistantes, a-t-elle déclaré. La docteure McPherson est vice-présidente de l'Association canadienne des évaluateurs et prestataires d'aide médicale à mourir, qui a élaboré un programme national de formation destiné aux cliniciens. Cette formation n'est pas largement dispensée dans les facultés de médecine à travers le pays, une situation qui, selon Mme McPherson, doit changer. Elle a déclaré que la polarisation et la désinformation font obstacle à des discussions constructives. D'un point de vue politique, je pense que c'est un sujet brûlant, car je crois que jusqu'à présent, les gouvernements ont toujours attendu que les tribunaux prennent des décisions pour réagir ensuite, a affirmé Dr. McPherson. Une longue saga juridique. L'arrêt Carter est intervenu 22 ans après une décision partagée de la Cour suprême dans le cadre d'une contestation similaire fondée sur la Charte. La femme au centre de cette affaire, Sue Rodriguez, avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig, et n'avait plus que quelques années à vivre. John Major, un juge à la retraite de la Cour suprême, qui s'était rangé du côté de la majorité dans cette décision, prise à 5-4, a confié qu'il éprouvait de la sympathie pour Mme Rodriguez sur le plan personnel, mais qu'il craignait que la légalisation ne crée les conditions propices à des abus. Je craignais que cela n'ouvre la voie à quelque chose qui pourrait devenir un problème, a indiqué M. Major en entrevue. Madame Rodriguez est décédée quelques mois seulement après la décision, avec l'aide d'un médecin anonyme. L'une des juges ayant rédigé une opinion dissidente en 1993 était Beverly McLachlin. En 2015, lorsque l'affaire Carter a été portée devant la Cour, elle était juge en chef de la Cour suprême et l'ensemble des juges partageaient le même point de vue. Aujourd'hui, certaines provinces tracent leur propre voie. L'Alberta a adopté une loi visant, entre autres, à limiter l'aide médicale à mourir aux personnes dont le décès est susceptible de survenir dans les 12 mois. Le Québec, qui affiche le taux d'aide médicale à mourir le plus élevé au monde, permet aux personnes de signer des demandes anticipées afin qu'un médecin puisse respecter leur souhait de mettre fin à leur jour une fois qu'elles auront perdu la capacité de consentir. La ministre Marjorie Michel et le ministre de la Justice, Sean Fraser, ne dévoilent pas ce que le gouvernement prévoit faire concernant l'extension possible de l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales en mars. Ils attendent que la commission parlementaire formule ses recommandations. Le président de la commission, le député libéral Marcus Pawlowski, a déclaré que le rapport serait présenté au Parlement mercredi, exactement 10 ans après la légalisation. C'était le débat sur l'aide médicale à mourir ne s'essouffle pas au Canada. Un texte de Sarah Ritchie de la Presse canadienne, paru le 16 juin 2026 dans Le Devoir.